France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul,
Washington,
São Paulo.
Beyrouth, France Inter.
Et nous allons donc en Corée au pluriel, dans l'escale reportage d'un jour dans le monde. Vous savez que les deux présidents des deux Corées se rencontrent à nouveau. Ça se passe demain mardi en Corée du Nord. Cette fois, nouveau sommet qui veut parler de bonne volonté de part et d'autre, autant que de nucléaire, et qui ravive aussi les espoirs de dizaines de milliers de familles. Bonsoir Frédéric Ojardias.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Frédéric, on comprend pourquoi les Coréens y prennent goût à ces réunions de famille entre Nord et Sud. Ça avait été le cas déjà au mois d'août, les familles en veulent plus. En témoigne votre reportage.
Oui, j'ai rencontré M. Kim Kwang-ho, 81 ans, professeur de médecine orientale à la retraite. Kim Kwang-ho est né au Nord, il s'est enfui au Sud pendant la guerre à l'âge de 13 ans, en laissant derrière lui sa mère et son petit frère de 11 ans. Et pendant 68 ans, il n'a reçu absolument aucune nouvelle d'eux. Puis cet été, il a été tiré au sort par la Croix-Rouge pour participer aux dernières réunions familiales. Et il a enfin pu revoir son petit frère, désormais âgé de 79 ans.
La première fois que nous nous sommes revus, je n'ai pas cru que c'était mon frère. Après 68 ans de séparation, je n'avais aucun souvenir de son visage et je ne l'ai pas reconnu. Je lui ai donc posé plusieurs questions sur notre enfance pour vérifier. J'ai ainsi pu être sûr que c'était bien lui.
Ces rencontres organisées par la Croix-Rouge ont lieu en Corée du Nord, dans l'hôtel d'un parc touristique près de la frontière. Elles sont très surveillées, à l'exception de la matinée et du déjeuner le deuxième jour. Toutes les rencontres ont lieu dans une grande salle commune, sous l'œil des caméras de télévision sud-coréenne. Il n'y a aucune intimité et les agents à la sécurité de l'État nord-coréen veillent. Avant son départ, Kim Kwang-ho avait préparé deux sacs de cadeaux pour son frère, des vêtements chauds pour les rudes hivers au nord, des médicaments. Mais le premier jour, le climat de paranoïa était tel que son frère a refusé tous ses présents.
Nous avions discuté de notre famille pour savoir qui est toujours vivant, au nord et au sud. En discutant, nous avions pris des notes. Mais ces notes ont été confisquées par des agents de la sécurité de l'État. Mon frère avait peur d'être dans leur collimateur. C'est pourquoi il a d'abord refusé tous mes cadeaux.
Mais alors Frédéric, pourquoi cette surveillance? Pourquoi interdire toute intimité aux familles?
Eh bien, la Corée du Nord cherche à limiter au maximum les contacts entre sa population et celle du Sud, des contacts vus comme une menace pour sa propagande et son idéologie. Les participants nord-coréens aux rencontres sont longuement préparés à l'avance et certains se mettent parfois en pleine retrouvaille à faire soudain l'apologie du régime et de ses dirigeants, ce qui provoque la stupeur de leur famille sud-coréenne. Mais Kim Kwang-ho ne s'en formalise pas.
Écoutez, ces mots de propagande me mettaient mal à l'aise. Les Nord-Coréens ont subi un lavage de cerveau et parlent beaucoup d'idéologies. Mais je les comprends. C'est le seul moyen de réussir à survivre dans cette société. Cela ne me posait pas de problème.
Donc on a bien compris, hein, ces réunions familiales sont très surveillées. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'elles sont chronométrées.
Oui, en 3 jours, les familles ne passent que 11 heures ensemble. Et après ces 3 jours, les adieux sont définitifs. Pyongyang interdit aux familles de maintenir tout contact, par courrier ou par téléphone, en dépit des demandes répétées de Séoul. Les adieux sont d'autant plus déchirants que la grande majorité des participants a plus de 80 ans.
Les Sud-Coréens montent dans le bus pour repartir. Les Nord-Coréens agitent les mains. Et à travers les fenêtres, nous nous disons au revoir. À ce moment-là, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, est-ce que je le reverrai vraiment un jour? Cela m'a vraiment fait pleurer. J'ai dit plusieurs fois à mon frère, de nos jours, les gens vivent jusqu'à 100 ans. Alors vivons 10 ans de plus pour avoir une chance de nous revoir. À sa femme qui l'accompagnait, j'ai bien insisté. Ne le laissez pas boire d'alcool. Ne le laissez pas fumer. Évitez tout ce qui est mauvais pour lui.
Au total, 130 000 Sud-Coréens se sont portés candidats à ces réunions familiales. plus de la moitié d'entre eux est déjà décédée. Deux tiers des survivants ont plus de 80 ans, il y a donc vraiment urgence. Mais Pyongyang se sert de ces rencontres comme d'une monnaie d'échange diplomatique pour obtenir de Séoul des concessions ou pour afficher sa volonté de dialogue. Depuis la fin de la guerre, une vingtaine seulement de ces réunions ont été organisées, avec 200 familles à chaque fois. C'est vraiment une goutte d'eau. Le seul espoir de Kim Kwang-ho de revoir son frère, c'est donc une très hypothétique réunification.
J'aimerais bien que la réunification ait lieu bientôt. Si j'étais plus jeune, je participerais à des manifestations. Je m'engagerais dans des mouvements. Mais tout cela n'est plus de mon âge. J'en suis vraiment désolé.
En dépit de la détente initiée en début d'année et des sommets avec le Sud qui se multiplient, la Corée du Nord refuse d'organiser davantage de rencontres. Et pour ces dizaines de milliers de familles déchirées, l'interminable attente continue.
Hypothétique réunification, comme vous dites, Frédéric, mais on espère quand même, on croise les doigts, que vous aurez peut-être l'occasion de nous le raconter dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.